merci aux organisateurs de ces séminaires d'avoir choisi ce thème qui effectivement est un thème important mais compliqué. Alors déjà pour donner une mesure de cette complexité, je vais articuler mon exposé autour de la question comment conceptualiser la confiance compte tenu de la diversité de phénomènes qui entrent sous cette notion. Est-ce qu'on peut arriver à un concept unique ou est-ce qu'on est obligé de diversifier la conceptualisation ? Alors, dans un premier temps, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais évoquer très descriptivement la diversité, l'hétérogénéité des phénomènes que l'on rencontre dès qu'on aborde ce thème de la confiance. Dans un deuxième temps, je vais discuter une approche qui pense pouvoir aboutir à une conceptualisation quasiment unifiée de la confiance, en la traitant comme exclusivement une catégorie cognitive. Et donc j'essaierai d'exposer d'une part cette conception qui est la conception d'un politiste américain qui a beaucoup contribué ces dernières années à l'approche de la conscience, qui est Russell Hardin. Et donc bon, je vais rappeler sa théorie et je vais la discuter en critiquant effectivement cette approche purement cognitive. Alors, pour donner une idée d'abord de la diversité des phénomènes qui entrent sous cette appellation, on peut partir du cas paradigmatique, peut-on dire, de la confiance, qui est la confiance interpersonnelle, la diversifier déjà elle-même et ensuite différencier deux autres types de confiance, dont un que je vais appeler, si vous voulez, infrapersonnel, et un autre qui renvoie à un tout autre contexte, qui est celui, disons, de la confiance dans les institutions. Et là, je prendrai comme exemple le cas de la confiance dans la monnaie en me référant à la première approche qui a été faite, qui était celle de Zimmel. Alors, s'agissant premièrement de la confiance interpersonnelle, on y trouve déjà beaucoup de choses très différentes. Va, si on veut, de ma croyance ou de mon savoir que telle ou telle personne est fiable, que l'on peut compter sur elle, qu'elle sera loyale, etc., jusqu'au degré le plus élevé de la confiance, le degré maximal, dirait Zimmel, qui est celui de la foi en cette personne, telle la foi de ce résistant dont la plus proche collaboratrice avait été arrêtée par la Gestapo et qui répondait à ses amis qui lui recommandaient de fuir immédiatement, qu'il avait totalement foi en elle. C'est une dimension de la confiance que cette foi dans la personne que Zimmel, le sociologue allemand Zimmel, qui a été le premier en sciences sociales, me semble-t-il, à thématiser la question de la confiance, que Zimmel a caractérisé comme une foi socio-psychologique apparentée à la foi religieuse et qu'il définissait ainsi « On croit en une personne sans que cette foi soit justifiée par les preuves que cette personne en est digne. Cette foi est, dit-il aussi, une acceptation sans réserve d'une personne qui n'est induite ni par l'expérience ni par les hypothèses. » Et des philosophies de l'argent, ça c'est des citations qu'on trouve dans Sociologie, et dans Philosophie de l'argent, écrit quelques années auparavant, il soulignait déjà le fait que cette foi est en excès par rapport aux raisons et aux preuves sur lesquelles elle s'appuie. Et là je le cite, selon une excellente tournure, on croit en quelqu'un sans s'ajouter ou même sans penser clairement ce que l'on croit en vérité à son sujet. Le moi s'abandonne à toute sécurité, sans résistance, à sa représentation d'un être se développant à partir de raisons invocables qui, cependant, ne la constituent pas. Alors là, on rencontre un thème qui va être central dans toute, dans une partie de la réflexion sur la confiance, qui est l'idée que la confiance s'appuie bien sur des raisons, elle a bien des fondements, et entre autres, elle peut s'appuyer effectivement sur une connaissance, sur du savoir, une connaissance, disons, de la personne à qui on fait confiance. Mais néanmoins, la confiance excède ce fondement de savoir, ce fondement de raison. Et donc, il y a comme un saut qu'elle fait, et donc qui pose la question de savoir effectivement si la confiance n'est pas clivée entre, disons, une composante rationnelle et une composante qui serait irrationnelle. Ce thème-là, par exemple, aussi a été au centre, un élément très important de la théorie de Niklas Luhmann, que j'évoquerai aussi, hein, qui est aussi un de ceux qui ont produit les ouvrages les plus marquants sur la confiance dès les années 60, un livre qui vient d'être traduit en français tout récemment, et qui insiste effectivement sur cette extrapolation que fait constamment la confiance par rapport à la base d'informations disponibles, par rapport au savoir disponible, par rapport aux normes ou au contexte normatif disponible. Alors, donc ça c'est le degré maximal de la confiance, et dans la relation interpersonnelle, il y a aussi toutes sortes de degrés, hein, de la confiance qui ne vont pas jusqu'à cette foi, hein, dans la personne, et dont peut-être le degré le plus bas serait ce qu'on peut appeler la confiance civile, hein, pour forger une expression d'après l'expression de Goffman, inattention civile, et qui est l'idée qu'en fin de compte, lorsque je sors de chez moi, je ne m'arme pas encore du moins, d'un pistolet, à l'idée que ceux que je vais croiser dans la rue vont m'agresser physiquement. Et sauf à être paranoïaque, je ne vais pas les soupçonner de cacher leurs intentions réelles, de me vouloir du mal, ou de vouloir m'induire en erreur. Alors, voilà, par rapport à cette... Bon, je reviendrai, hein, sur la caractérisation de cette confiance interpersonnelle qui reste le cas paradigmatique. Alors, par rapport donc à ce cas paradigmatique, on peut distinguer un autre type de confiance qui, à mes yeux, ne mérite peut-être pas le nom de confiance, bien que ce nom lui ait été donné. Et là, je pense à la confiance telle qu'elle a été appréhendée par la phénoménologie sociale d'Alfred Schütz et de Garfinkel, entre autres, comme une confiance très basique, hein, et qui permet une coordination stable des actions. Hein. Elle est infrapersonnelle parce qu'elle n'est pas de l'ordre de la confiance que je peux faire à quelqu'un pour faire quelque chose de déterminé, hein, et qui va susciter chez lui un sens de l'obligation. Du point de vue de la phénoménologie sociale, cette sorte de confiance très basique est un mode de comportement consistant pour l'essentiel à acquiescer et à adhérer à tout un arrière-plan d'attente et de croyance, hein, constitutif de ce que Schütz appelait l'attitude de la vie quotidienne, et à les honorer concrètement dans la conduite. Deuxièmement, à compter sur autrui et sur sa bonne foi, et notamment sur sa disposition à honorer ses attentes et ses croyances, et à les prendre, hein, comme allant de soi, à les prendre comme base pour raisonner et pour agir. Et troisième composante, à s'abstenir de douter, hein, d'un certain nombre de choses, hein, donc de substituer le doute, si on veut, à cette adhésion à ce qui va de soi, hein, et notamment de douter de la correspondance entre apparence et réalité, par exemple en soupçonnant autrui de vouloir nous tromper, nous induire en erreur, nous cacher les vrais motifs de sa conduite, ou d'être une autre personne que celle qu'elle paraît être. Précisément, ne pas prendre, disons, cette attitude ces éléments constitutifs de ce que Schütz appelle l'attitude de la vie quotidienne, comme base de raisonnement et d'action, ou comme schéma d'interprétation des événements ou des actions qu'on observe, c'est précisément faire preuve de distrust, c'est précisément faire preuve de méfiance. Et donc l'opérativité, si on veut, de cette forme très basique de confiance, bon, qui n'est pas à proprement parler de la confiance à mes yeux, peut être montrée en introduisant justement une forme ou une autre de distrust ou de méfiance dans l'organisation des interactions et en observant les effets de désorganisation qui s'en suivent. C'est ce que Garfinkel avait essayé de faire en produisant ses expériences de rupture avec ses étudiants et en observant ce qui se passait. Et pour faire preuve en fait de distrust, il suffit, en fait c'est pas si simple que ça, et les étudiants ont eu beaucoup de mal à le faire, de ne pas prendre un certain nombre d'attentes et de croyances d'arrière-plan de la vie quotidienne comme schéma d'interprétation ou comme base d'inférence et d'action. Et quand ce distrust prévaut, l'organisation des interactions se bloque très vite et les affects sociaux négatifs font massivement irruption, allant de la gêne et l'embarras à la honte, la colère et la haine. Donc ça, c'est voilà, un niveau que je propose d'appeler infrapersonnel. Et puis, quand on se tourne effectivement du côté des institutions, il y a bien aussi toutes sortes là de formes de confiance. On parle de, je sais pas, de confiance dans le gouvernement, de confiance dans les institutions, de confiance dans les monnaies, dans la monnaie. Et là encore, et donc ce sont des formes de confiance qui mettent d'autres mécanismes et d'autres processus en jeu que la confiance interpersonnelle. Alors, justement, Zimmel avait introduit sa réflexion sur la confiance par une réflexion sur la confiance dans la monnaie. Et il distinguait dans cette confiance dans la monnaie trois éléments, en fait. Un élément de confiance, dit-il, dans les institutions et les instances ou les autorités garantissent la valeur de la monnaie, qui assurent la stabilité monétaire, si on veut. Deuxième composante, c'était la confiance dans la sphère ou le système économique, et qui fait que peut naître la conviction que l'argent que l'on reçoit maintenant pourra être redépensé à la même valeur. Ici, dit-il aussi, l'indispensable et le décisif, c'est la confiance, et pas le métal, si on veut. Donc il reprenait la devise maltaise, non aes sed fides, non pas le métal, mais la foi ou la confiance ou le crédit. Et donc ce qu'il appelait la confiance dans l'aptitude de la sphère économique à nous remplacer sans dommage la quantité de valeur que nous avons abandonnée en échange de cette valeur intérimaire qu'est le billet de banque ou la pièce de monnaie. Donc il disait, sans faire ainsi crédit de deux côtés, personne ne peut utiliser la monnaie. Sans cette double confiance, seule cette double confiance confère à celle-ci la mesure déterminée de la valeur. Et un troisième élément que Zimmel introduisait, et précisément qui ne nommait pas confiance, en fait, à proprement parler, parce que c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, et moi je propose de le nommer escompte, au sens où un agent escompte que dans telle situation, telle chose se passera. Et donc là, l'idée, c'est que si le possesseur d'argent est garanti, ou de monnaie est garanti, par l'organisation et le fonctionnement de la sphère économique, ainsi que par la communauté qui, dit Zimmel, est engagée vis-à-vis de lui, de pouvoir réutiliser son argent à tout moment, en obtenant dans le futur la quantité de biens correspondant approximativement à sa valeur d'aujourd'hui, il dépendra néanmoins du bon vouloir des possesseurs des biens contre lesquels il voudra un jour échanger son argent, car ceux-ci seront libres de céder ou de garder leurs biens, d'accepter ou de refuser son argent. Donc il se peut que les promesses contenues dans la monnaie qu'il détient, dans l'argent qu'il détient, ne soient pas remplies. Et donc, de ce fait, le possesseur d'argent n'est pas absolument garanti de pouvoir réutiliser son argent. Il est simplement vraisemblable qu'il puisse le faire. Donc, là, je cite Zimmel, la garantie de pouvoir réutiliser l'argent, c'est d'escompter l'énorme vraisemblance que chaque particulier, malgré la liberté qu'il a de refuser l'argent, l'acceptera. Mais, me semble-t-il, cet escompte n'est pas du même ordre que soit la confiance dans les institutions qui assurent la stabilité monétaire, soit la confiance dans le système économique lui-même. Alors, ensuite, bon, une fois distingués ces trois composantes, il faudrait les analyser, mais je ne peux pas rentrer dans le détail, et là, effectivement, s'interroger sur ce que peut être, est-ce que c'est une confiance dans une institution, est-ce que quelque chose comme une confiance dans le gouvernement est possible, et si oui, de quel ordre est-elle, et comment et quel rapport a-t-elle avec la confiance interpersonnelle, ou en quoi est-elle différente de la confiance interpersonnelle? Bon, il y a des théories là-dessus et qu'on peut discuter, entre autres celle de Russell Hardin est très intéressante. De même, s'agissant de la confiance dans un système, la confiance dans le système économique, la confiance dans un système est quelque chose aussi de très particulier, et là aussi, c'est Luhmann qui en avait fait la théorie dans son livre de 1968 qui vient d'être traduit, où il distinguait entre la confiance personnelle et la confiance dans le système. Et donc là, on a si on veut, donc on a une théorie, disons, de la confiance que Luhmann, je mentionne juste la définition qu'il donnait, celui qui a confiance dans la stabilité de la valeur de l'argent ou de la monnaie, et dans le fait qu'une multitude de possibilités d'utilisation de celui-ci demeureront disponibles, présuppose au fond qu'un système fonctionne, et sa confiance ne se porte pas sur des personnes qu'il connaît, mais plutôt sur le fonctionnement de ce système. Et bon, la confiance dans le fonctionnement de ce système est quelque chose de très particulier, qu'il a essayé d'analyser. Alors, je conclue ce premier point pour me garder plus de temps pour le deuxième, en rappelant, puisque j'évoquais Luhmann, Niklas Luhmann, sa conception de la confiance, dont je vais me servir dans le second point. Pour lui, la confiance est un dispositif de réduction de la complexité sociale, c'est-à-dire une manière de réduire la multiplicité des possibles et la multiplicité des comportements possibles d'autrui, entre autres, dans le futur. Et donc, elle réduit la complexité en rendant celui qui fait confiance indifférent à certaines éventualités négative ou dommageable dans le futur, c'est-à-dire à certains risques, indifférent à certains risques. La confiance est pour lui une prise de risque, non pas le risque d'être trahi, mais le risque que la ligne de conduite adoptée se solde par des résultats négatifs qui nous amèneront à regretter d'avoir fait confiance. Alors, il y a deux points qui me paraissent que je retiens, que je trouve intéressant chez Luhmann, c'est pas tellement sa théorie des systèmes l'interprétation qui fait la confiance à sa théorie des systèmes, mais d'abord l'idée que là où il y a certitude, assurance, information complète, si on veut, ou importante, absence de doute, quand le futur est garanti, que nous avons des possibilités de recours ou des possibilités de sanctions contre autrui, il n'y a pas besoin de la confiance. Et que la confiance, avec la confiance, nous engageons d'une certaine manière toujours au-delà de ce qui est garanti. Et c'est ce geste au-delà des structures d'assurance existantes, si on veut. La loi en est une, les contrats en sont, toutes sortes de dispositifs de confiance étudiés par exemple par Lucien Carpic en sont aussi. Mais la confiance nous entraîne au-delà pour affronter. Par une technique qui lui est propre, l'indétermination de l'autre, c'est sa liberté d'agir de manière imprévisible. La deuxième composante, c'est effectivement, elle est liée, c'est l'idée que précisément la confiance trouve son fondement dans l'insuffisance de la capacité de connaître et de la capacité de contrôler. Et elle remplace, si on veut, l'information manquante par une sorte d'assurance intérieure garantie, dit-il. Et par ce biais-là, elle élargit l'horizon temporel, elle accroît la réactivité de l'agent en le rendant indifférent à un nombre incalculable d'événements qui se produisent dans son environnement. Et donc, effectivement, c'est un dispositif, et je trouve ça, cette idée intéressante, un dispositif très particulier d'organisation de l'action, parallèle ou articulé au dispositif, si on veut, d'organisation de l'action rationnelle. Alors justement, donc, en introduisant cette problématique de l'action rationnelle, je vais faire la transition avec mon second point, qui tourne autour de la possibilité, disons, d'unifier la conceptualisation et la théorie de la confiance autour, disons, d'une conception rationnelle de la confiance, d'une conception rationnelle de la confiance d'une certaine manière, gommerait, si on veut, la différence entre ces moments constitutifs et mettrait l'accent quasi exclusivement sur sa dimension cognitive. Et donc là, le partenaire de discussion, c'est Russell Hardin, qui a produit nombre de textes là-dessus, et qui se situe dans la perspective, dans le sillage de la théorie du choix rationnel. Alors, là, je repars de Simmel, dont une partie des considérations sur la confiance, donc je l'ai dit, apparaissent dans sa réflexion sur la monnaie, dans la philosophie de l'argent, mais les autres apparaissent dans ses analyses des sociétés secrètes, dans son livre Sociologie. Une société secrète est un groupe, dit-il, qui prend le secret comme forme d'existence. C'est un type de groupe particulier. Il doit se rendre invisible pour se protéger. Ce ne sont pas les individus qui sont cachés, ni leur but ou disposition particulier, mais le fait qu'ils se réunissent, qu'ils ont entre eux un commerce extrêmement actif, qu'ils forment une conjuration, une bande de malfaiteurs, une communauté religieuse, etc. Alors ça, c'est ce qu'il appelle la caractéristique externe de ce type d'association. Et à cette caractéristique externe correspond une caractéristique interne qui est précisément la confiance réciproque de ses membres, indispensable pour que cette protection soit assurée. Alors il s'agit, dit Simmel, d'une confiance tout à fait spécifique, celle dans la capacité de se taire. Et Simmel distingue cette confiance de celle qui prévaut dans d'autres types d'associations. Est entendu que, dit-il, d'après leur contenu, les associations peuvent reposer sur toutes sortes de principes de confiance. On peut avoir confiance dans l'aptitude de quelqu'un aux affaires, dans sa conviction religieuse, dans son courage ou son amour, dans une bonne mentalité, ou encore, dans le cas d'associations criminelles, dans sa rupture radicale avec des velléités morales. Mais dès qu'une société devient secrète, à cette confiance déterminée par des fins particulières, vient s'ajouter une autre forme de confiance, celle dans l'aptitude à garder le secret. Alors, il s'agit là, de toute évidence, d'une foi en la personne, sociologiquement plus abstraite que toute autre, parce que cette foi peut recouvrir n'importe quel contenu commun à un groupe. Et quelques pages auparavant, Simmel avait distingué ce type de confiance qu'est la foi en une personne, un autre type de confiance, alors une confiance de type plus cognitif, si on veut, puisqu'il la définissait comme une forme de savoir sur un être humain. Une forme de savoir mélangeant du savoir et du non-savoir. On sait des choses sur la personne à qui on fait confiance, et pour lui faire confiance, il faut savoir un certain nombre de choses sur lui, sur elle plutôt. Et si on ne sait rien sur elle, on ne peut pas raisonnablement faire confiance. Mais en même temps, si on sait tout sur elle, on n'a pas besoin de faire confiance. C'est pour ça qu'il y a ce mélange de savoir et de non-savoir sur lequel il insistait. Et il relevait que dans les sociétés modernes, où les personnes ne se connaissent plus réciproquement, la confiance requise pour agir ensemble n'exige plus la connaissance véritable de la personne, notamment de ses qualités personnelles, mais se contente de la connaissance de certaines données extérieures, etc. Donc, la confiance, là, donc on a la foi, au maximum la foi en la personne. Là, elle est une forme du savoir sur l'autre, donc un mélange de savoir et d'ignorance. Et puis, en troisième aspect, elle est une hypothèse, dit-il, sur une conduite future, assez sûre pour qu'on fonde sur elle l'action pratique. J'ai déjà donc évoqué cette foi cette foi en la personne. Alors, ce qu'on peut noter, c'est la manière dont Zimmel la caractérise. Alors, d'un côté, il dit qu'elle a une composante cognitive. Cette sorte de foi, par exemple, celle du commerçant qui se procure des marchandises, en fait, là, il ne s'agit pas d'une foi, vraiment d'une foi en la personne. Mais bon, c'est la confiance du commerçant qui se procure des marchandises parce qu'il croit que le public va désirer les acheter. Et cette sorte de confiance là n'est rien d'autre, dit-il, qu'un savoir inductif atténué, c'est-à-dire elle est de l'ordre d'une afférence, si on veut, d'une induction, d'une afférence qui extrapole du passé vers le futur et qui est sans fondement rationnel comme toute induction. Mais dans le cas, disons, de la foi en une personne, il s'agit d'autre chose, qui n'est pas d'ordre cognitif. Il s'agit, dit Zimmel, là, d'un état d'âme qui ne se situe absolument pas dans la direction du savoir. C'est d'un côté assurément moins que du savoir, mais de l'autre bien davantage que ce savoir. Et précisément, c'est ce type de confiance, donc de foi dans une personne qui est en jeu dans la société secrète sous la forme de la confiance à la capacité, donc on a dit, d'un membre à garder le secret. Et c'est une forme de confiance qui, dans la mesure où elle est précaire, facile à trahir, a besoin d'être constamment renouvelée subjectivement parce que, dit-il, c'est un domaine où l'on trouve facilement des faits. Ce n'est pas plutôt un domaine où l'on trouve facilement des faits qui font une fois pour toutes la quantité de confiance que l'on peut accorder, etc. Et c'est pourquoi, dit-il, les sociétés secrètes sont une école extrêmement efficace de la solidarité morale entre les hommes, et Zimmel pointe alors, ce qui me paraît être de très beaux termes, la dynamique morale de la confiance interpersonnelle. Je le cite, « car il y a dans la confiance qu'un être humain porte à un autre, une valeur morale aussi haute que dans le fait de ne pas décevoir cette confiance. Et cette valeur est peut-être encore plus libre et plus méritoire, car lorsqu'on nous fait confiance, nous sommes presque engagés par un jugement porté sur nous par avance, et il faut être positivement mauvais pour le décevoir, etc. » Là, je souligne les termes utilisés par Zimmel. Les uns évoquent des degrés variables d'investissement, par la quantité de confiance que l'on peut accorder à quelqu'un, et les autres évoquent un engagement de part en part, un engagement mutuel, si vous voulez, puisqu'ils parlent d'engager par un celui qui bénéficie de la confiance est engagé par un jugement porté sur lui par avance, de même que celui qui fait confiance s'engage en faveur du bénéficiaire de sa confiance, donc à travers un jugement favorable qui porte sur lui par avance. Donc, manifestement, pour Zimmel, la confiance interpersonnelle articule différents moments ou éléments, donc cognitif, moral, affectif, puisqu'il définit la confiance comme une attitude de la sensibilité. Mais bon, il n'a fait qu'esquisser l'analyse de la confiance, et il faudrait bien sûr préciser l'analyse. Alors, donc là, j'en viens précisément donc à la théorie de Russell Hardin, qui, me semble-t-il, lui, pense pouvoir tout réorganiser autour de la dimension cognitive. La confiance, dit Hardin, est une notion cognitive appartenant à la même famille que les notions de connaissance et de croyance, ou à la même famille que le type de jugement que l'on peut appeler évaluation. Toutes ces notions, confiance y compris, donc sont cognitives parce qu'elles sont, elles ont pour fondement un sens quelconque de ce qui est vrai. Alors, personnellement, je pense qu'il a tort Je ne pense pas qu'on puisse réorganiser et unifier le concept de confiance autour de cette dimension cognitive. Et donc, et l'argument que je voudrais lui opposer, enfin, bon, différents arguments, mais entre autres, l'idée que je voudrais développer, c'est que la confiance est aussi une notion pragmatique et que c'est un processus qui comporte toute une série d'opérations, c'est un mode d'action, c'est un mode de conduite. Et donc, à ce moment-là, il me semble que ça excède la dimension proprement cognitive. Quand Zimmel définissait le moment cognitif de la confiance, il le faisait soit en termes donc, de savoir ou d'ignorance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, soit en termes de raisonnement ou de type de savoir, donc puisqu'il parlait de savoir inductif, de savoir inductif atténué. En fait, on retrouve cette dualité chez Hardin, notamment sous la distinction qu'il fait entre la confiance interpersonnelle, qui requiert une connaissance de l'autre, une connaissance de ses intérêts, une connaissance de ses raisons, j'y reviendrai, et la confiance, par exemple, dans un gouvernement ou une institution comme, je sais pas, la banque, par exemple, cette confiance étant pour lui aussi rien d'autre que un savoir de type inductif. Par exemple, la confiance que je peux avoir en ma banque n'est rien d'autre qu'un ensemble d'attentes stables, induites de suppositions, de l'expérience passée, de la coutume ou de la réputation, qui extrapole de la conduite passée de la banque vers l'avenir. Donc, dit Hardin, c'est une confiance très faible qui n'est pas fondée sur un savoir éprouvé ou sur une connaissance valide. Pour faire confiance à ma banque, je n'ai besoin que de généraliser, dit-il inductivement, à partir de ce que je pense être l'essentiel de son comportement, ou même seulement des résultats apparents de sa conduite, comme je généralise inductivement que l'hiver sera froid. On a un type de généralisation inductive, et pour lui, la confiance dans les institutions serait de cet ordre de généralisation inductive, l'hiver sera froid. Et cela vaut aussi, par exemple, pour la confiance dans le gouvernement. J'attends raisonnablement d'un gouvernement, par généralisation inductive, qu'il se conduise de façon décente, qu'il soit à la hauteur des situations problématiques en faisant prévaloir le souci du bien public. Alors, ce n'est pas ce qui me gêne, cette analyse, disons, de ce type de confiance en termes de savoir inductif ou de généralisation inductive. Ce qui me gêne le plus, c'est cette réduction de la confiance à une croyance étayée sur des connaissances, ou ce qui me gêne, c'est la réduction du jugement impliqué, le jugement qu'évoquait Zimmel, le jugement en faveur d'une personne, d'une simple évaluation cognitive positive, si on veut, de la fiabilité de quelqu'un. Fiabilité au sens d'être digne de confiance, être quelqu'un sur qui on peut compter, etc. Et par exemple, pour Hardin, dire « j'ai confiance en toi, je sais que tu es digne de confiance, je crois que tu honoreras ma confiance, j'évalue positivement ta fiabilité, si on veut », c'est dire la même chose sous des formes différentes. Donc, dans l'approche, disons, en termes de choix rationnel, qui insiste sur la rationalité de la confiance et qui essaie de la mettre en évidence, les deux éléments qui importent sont d'un côté les motivations des agents, celle de l'agent qui fait confiance et celle du bénéficiaire de la confiance, et notamment les motivations à honorer la confiance faite, et de l'autre, la connaissance des raisons, notamment des raisons que le partenaire pourra avoir de ne pas me trahir, d'honorer la confiance que je lui fais. Donc, faire confiance, c'est croire que quelqu'un est digne de confiance et agir en conséquence parce que l'on connaît ses intérêts et que l'on sait ce qui le motivera à se montrer digne de confiance ou à être loyal. Donc, il faut donc, pour pouvoir évaluer la fiabilité de l'autre et ses chances de loyauté, et donc lui faire confiance, connaître ses intérêts et ses motivations. Et dans cette perspective, soulignera Hardin, l'analyste doit se focaliser non pas sur la confiance elle-même, mais sur les raisons pour lesquelles quelqu'un fait confiance, et sur les raisons que peut avoir le bénéficiaire de la confiance de se montrer digne de confiance ou loyal dans une relation et un contexte particulier. Donc la confiance là n'est pas bien sûr un mode d'action, n'est pas un mode de comportement, elle est une croyance, elle est une connaissance, elle est une évaluation sur la base de laquelle on agit. Et c'est la raison pour laquelle Hardin refuse effectivement de suivre et critique ceux qui abordent et envisagent la confiance comme un mode d'action. Bon, j'avais relevé des citations de Hardin, mais comme le temps passe et qu'il me reste 5 minutes, je vais énumérer très rapidement les trois raisons qui me paraissent les trois aspects qui me paraissent poser problème. Le premier, c'est que il me semble que croire qu'une personne est fiable, croire qu'une personne sera loyale, c'est pas lui faire confiance. Croire que la personne est fiable ou sera loyale, et lui faire confiance, me semble-t-il, c'est des choses distinctes. Deuxième argument qu'il faudrait développer, bien sûr, faire confiance à quelqu'un, c'est pas simplement croire ou savoir que cette personne est quelqu'un sur qui je peux compter, et donc l'évaluation en jeu, est plus qu'une évaluation de la fiabilité. Plutôt le jugement en jeu est plus qu'une évaluation de la fiabilité. Le jugement porté par avance sur le bénéficiaire de la confiance, pour reprendre l'expression de Zimmel, est plus qu'une évaluation de la fiabilité. C'est l'attribution d'une valeur. C'est l'attribution d'une valeur à la personne. Attribution qui va induire certains comportements de part et d'autre. Donc il y a quelque chose comme un engagement mutuel dont vont résulter des obligations diverses, obligations que ne peut pas susciter une simple évaluation de la fiabilité de la personne. Et donc cet engagement, comme Zimmel et Luhmann n'ont cessé d'y insister, représente une extrapolation à partir, bien sûr, du savoir, de l'information disponible, de la connaissance qu'on peut avoir des raisons d'agir du bénéficiaire de la confiance, mais en même temps, il va au-delà. Il va au-delà de ce savoir, de cette information, des faits connus, voire au-delà des normes et des assurances détenues. Et troisième argument, donc, qu'il faudrait aussi développer, c'est ce cadre conceptuel, me semble-t-il, est trop étroit pour rendre justice à la rationalité de la confiance. Et la rationalité de la confiance est quelque chose de très particulier, et je pense que ce n'est pas parce qu'il y a cette dimension, effectivement, d'aller au-delà des assurances, de l'information, donc il y a cette composante d'extrapolation, que ça introduit un aspect d'irrationalité dans la confiance. Alors, face à cette réduction, si on veut, me semble-t-il, donc, et Hardin pense effectivement qu'autour de cette conception qu'il appelle, de cette théorie de la confiance qu'il appelle la théorie des intérêts encapsulés, je vais faire confiance à l'autre parce que je connais son intérêt et je connais ses raisons pour lesquelles, effectivement, il va encapsuler mes intérêts à moi dans ses propres intérêts. Donc, sera loyal à mon égard et ne trahira pas ma... ne travaillera pas mon confiance. Alors, face à cela, j'aurais tendance à défendre une conception plus pragmatique en termes de mode d'action, en termes d'opération, en termes de mode de comportement. Et dans les deux ou trois minutes qui me restent, je voudrais en dire un mot. Donc, faire confiance à quelqu'un, donc, c'est s'engager dans un certain type de relation avec lui. Et cela représente un processus qui se traduit par des opérations et par l'adoption de modes d'action, de comportement, etc. Je crois qu'on ne peut pas gommer cet aspect pragmatique de la confiance. Luhmann, par exemple, envisage l'établissement d'une relation de confiance comme un processus temporel et séquentiel. Ce processus comportant des conditions structurelles et existe des étapes. Et donc, ce qui est intéressant, donc, il souligne aussi que ça comporte un certain nombre d'opérations. Par exemple, la confiance émerge dans un type de situation particulier, une situation dans laquelle précisément un agent va dépendre d'un autre. Sinon, s'il n'y a pas cette situation de dépendance, le problème ne surgit même pas, le problème ne se pose même pas. Et donc celui qui fait confiance doit alors s'engager dans cette situation par son action, par son comportement, et s'exposer au risque d'une rupture de la confiance. C'est pourquoi, dit-il, le processus commence par un premier pas risqué qui, en tant qu'opération audacieuse, se prête-main à une normalisation. Donc, j'attire l'attention sur deux aspects. Je n'ai pas donné complètement la définition de Luhmann, mais il y a une première chose qui mérite l'attention, c'est d'abord la définition de la situation sans laquelle le problème ne surgit même pas. C'est non seulement, me semble-t-il, une situation de dépendance, mais aussi une situation de vulnérabilité. Pour celui qui accorde sa confiance, là je cite Luhmann, sa vulnérabilité est l'instrument par lequel il met en branle une relation de confiance. Ce n'est qu'à partir de sa propre confiance qu'il a la possibilité de formuler à titre de norme le fait que sa confiance ne soit pas trompée, par exemple, et ainsi d'amener l'autre dans cette voie qu'il vient de tracer. Donc celui qui accorde sa confiance se rend vulnérable au bénéficiaire de la confiance, pour autant qu'en s'en remettant à lui du bon soin de quelque chose qui lui tient à cœur, ou en lui confiant quelque chose qui lui est cher, ou la réalisation d'une tâche à laquelle il accorde un prix, il se met non seulement dans une dépendance par rapport à lui, pour atteindre cet objectif, mais aussi il lui donne la possibilité de lui nuire, d'exploiter cette dépendance à son profit, donc il se rend vulnérable. Deuxième chose sur laquelle j'attire l'attention, c'est la caractérisation de cette opération première qui enclenche le processus de la confiance et qui lui est nécessaire. Il s'agit, dit Luhmann, d'une opération surérogatoire. Bon, il y a sans doute nombre de philosophes dans la salle qui savent ce que c'est qu'une opération surérogatoire. On qualifie de surérogatoire ce qu'on fait au-delà de ce qu'on est tenu de faire, de ce qui est commandé ou obligé. Une opération surérogatoire est donc une opération que personne ne peut exiger, et c'est précisément pour cette raison qu'elle suscite des prétentions, comme la prétention, une fois que la confiance est donnée, à ne pas se voir trahir, à voir cette confiance honorée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette opération surérogatoire fait naître des possibilités de revendication de part et d'autre. Du côté de celui qui fait confiance, par exemple, des prétentions à voir sa confiance honorée, ou à être traité comme il est normal qu'on le soit dans ce genre de situation. Du côté du bénéficiaire de la confiance, des prétentions à voir adopter à son égard un certain type de comportement, de non-inférence, non-contrôle, non-surveillance, et tout ce qui peut résulter du fait qu'on s'en est remis à lui du bon soin de quelque chose, etc. Alors, il faudrait repérer, poursuivre le repérage des opérations de nature diverse qui sont impliquées dans la confiance et qui sont des opérations souvent réalisées à petite dose, et parce qu'il y a des étapes et des séquences de constitution de la confiance. Et pour les connaître, il faudrait se livrer à des enquêtes empiriques. Un point, donc, juste pour terminer, qui mérite alors, s'agissant, disons, de faire apparaître la rationalité particulière de la confiance, c'est celui qui concerne le contrôle. Le contrôle, le contrôle du processus de la confiance, ou plutôt l'autocontrôle du processus de la confiance, étant entendu qu'une confiance aveugle n'est sûrement pas une confiance rationnelle, et que donc effectivement la rationalité de la confiance est étroitement associée à ce contrôle. Hein, et donc là, on peut là aussi, me semble-t-il, exploiter des idées intéressantes de Luhmann, hein, qui analyse ce type de contrôle, d'un côté en termes de contrôle symbolique, et de l'autre en termes de contrôle par des seuils. Voilà. Il me semble, vous aurez compris, hein, que personnellement je trouve plus excitant, hein, d'aborder la confiance en termes comme ça de processus, d'opération, de mode d'action, de mode de comportement, que simplement en termes de croyance, de connaissance ou d'évaluation, ce qui ne m'amène pas à négliger, bien sûr, la place importante que jouent ces composantes dans la confiance. Mais en même temps, cette perspective, elle me semble-t-il beaucoup plus difficile à assumer, hein, parce qu'en fait, elle demande, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose, hein, et qu'il faut se livrer à toute une série d'enquêtes pour avancer là-dessus. Merci.